jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur l'intelligence des poulpes. Oui, des poulpes, des calmars, des seiches et autres céphalopodes qui ont longtemps nourri notre imaginaire et dont les chercheurs commencent seulement à mesurer l'étendue des capacités cognitives. Innovants, sensibles, joueurs, maîtres dans l'art du camouflage, capables d'apprendre, de mémoriser et d'utiliser des outils, ces étranges mollusques marins n'auraient-ils rien à envier aux vertébrés? Leur œil aiguisé, leur énorme cerveau qui contrôle des centaines de millions de cellules nerveuses logées jusque dans leurs tentacules aurait-il de quoi nous inspirer? Rencontre du troisième type aujourd'hui sur les traces d'une autre forme d'intelligence, celle des céphalopodes, en compagnie de nos invités, l'immunologiste, auteur et conteur Jean-Claude Amezen et l'éthologue Ludovic Dickel, spécialiste de la cognition et de la mémoire des céphalopodes, autour de la question jusqu'où nous entraînera l'intelligence des poulpes, mais aussi des pieuvres, calmars et autres seiches. Bienvenue. Bonjour Jean-Claude Amezen.
Bonjour.
C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, donc merci d'être en direct avec nous pour partager aujourd'hui cette intelligence exceptionnelle des poulpes en particulier et des céphalopodes en général, sur lesquels travaille l'éthologue Ludovic Dickel qui est en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Caen. Bonjour Ludovic Dickel.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'éthologie à l'université de Caen, où vous dirigez le groupe Mémoire et plasticité comportementale. Vos recherches sont focalisées sur l'intelligence et la cognition animale des céphalopodes. Après avoir travaillé sur et avec les poulpes, c'est aujourd'hui à la mémoire des seiches que vous vous intéressez, c'est ça?
C'est ça.
Donc les seiches ont de la mémoire, mais comment on travaille sur la mémoire des seiches?
En principe, c'est pas très compliqué. On leur apprend des choses, donc on leur donne des petites récompenses en présence d'un objet, par exemple. Et puis ensuite, on attend. Et c'est ce qu'on appelle un délai de rétention. Et puis quelques temps après, on leur repropose la situation. Et puis si elles s'en rappellent, elles vont agir en présence de l'objet qui a été préalablement renforcé.
Donc les seiches ont de la mémoire. Vous avez aussi fait ami-ami avec des poulpes. Vous nous ferez partager votre expérience et vos découvertes sur cette intelligence des poulpes que vous avez aussi à cœur, Jean-Claude Amezen, de nous faire passer. Je rappelle que vous êtes chercheur en biologie, immunologiste, internationalement reconnu pour vos travaux, mais aussi conteur, auteur et formidable passeur de science sur les épaules de Darwin. Votre émission hebdomadaire sur France Inter, comme dans vos ouvrages. Vous venez également de préfacer, Jean-Claude Amezen, le livre du professeur et plongeur Peter Godfroy Smith de l'université de Sydney en Australie. Un best-seller traduit en français chez Flammarion qui s'intitule Le prince des profondeurs ou l'intelligence exceptionnelle des poulpes. Exceptionnelle, inouïe et sidérant, cette intelligence, voire cette malice des poulpes que Darwin avait déjà pressentie.
Alors Darwin l'avait observé lorsqu'il avait 23 ans, au début de son grand voyage autour du monde, dans les îles du Cap-Vert, où il avait découvert avec émerveillement les talents de camouflage et la capacité de peindre leur corps de toutes les couleurs des seiches. Et il avait remarqué leur caractère facétieux. Il avait commencé par le remarquer parce qu'en se penchant et en cherchant des coquillages, il recevait des jets d'eau dans le visage et il s'apercevait qu'il y avait une seiche qui était en train de le viser.
Elle
se défendait. En tout cas, pour lui, c'était ce caractère un peu facétieux qu'il avait surpris, plus ses talents de coloriste et de camouflage, dont il pensait naïvement dans ses carnets qu'il était l'un des premiers à le découvrir, alors que ça avait été découvert depuis l'Antiquité et décrit depuis longtemps. Donc c'était...
Oui, ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage, ça c'est vraiment quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Autour des céphalopodes, petite définition d'abord, hein. C'est une grande famille les céphalopodes, Ludovic, dedans on met quoi? Les poulpes, les seiches, les calmars, les nautiles, les pieuvres
Alors, les céphalopodes font partie de l'embranchement des mollusques. Ce sont des cousins des huîtres, des moules, des escargots. Ils forment une classe d'animaux qui sont 700 espèces environ. et qui sont subdivisés en différents ordres, parmi lesquels on va trouver les calmars, les seiches, les pieuvres et les nautiles aussi.
Ils ont tous en commun d'avoir quoi ? Un gros cerveau, beaucoup de neurones, des tentacules ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ?
Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'a priori, leur aspect n'est pas très sympathique. Ça, c'est... ils ont tous en commun d'avoir des ventouses. Ça, c'est une caractéristique. Et puis un petit bec corné qui leur permet de déchiqueter leur proie.
Ils peuplent notre imaginaire justement parce qu'ils ont un aspect peu sympathique, parce qu'ils peuvent être de toute taille, hein, puisqu'on a découvert dans les grandes profondeurs des calmars géants. C'est un peu ça aussi qui fait qu'ils peuplent aussi notre imaginaire depuis toujours.
Oui, mais ce qui est intéressant, Roger Caillois avait écrit un très bel essai sur la pieuvre ou la naissance de l'imaginaire. En fait, quand vous dites pas très sympathique, ça dépend des époques et des regards. Pour beaucoup d'auteurs de l'Antiquité grecque ou latine, ils étaient sympathiques. Ils étaient même des modèles. Vous avez des auteurs qui recommandent à leurs enfants d'imiter le poulpe, parce que le poulpe est sage, parce que le poulpe se camoufle, parce qu'il est prudent, parce qu'il est facétieux, donc sympathique. Et puis, il y a l'autre versant. Quand vous dites pieuvre, pieuvre, c'est le mot qui est entré dans la langue française après que Victor Hugo ait publié Les Travailleurs de la mer en 1866. Et c'est le nom qu'on donne au caractère terrifiant, inquiétant. Victor Hugo a des pages extraordinaires dans lesquelles il dit la pieuvre, c'est le mal. Il en fait une espèce d'élément de la métaphysique. Et donc, c'est ces deux regards extrêmement différents. On peut voir le poulpe comme un animal gentil, avec lequel on aurait envie de jouer, ou en tout cas qu'on regarde avec plaisir, ou au contraire, comme un monstre effrayant, avec toutes les légendes depuis le Moyen-Âge de ces poulpes qui seraient gigantesques et qui entraîneraient le naufrage des vaisseaux. Donc, ce qui est beau, Roger Caillois disait, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, que c'est le regard étrange de ces êtres tellement différents de nous qui peut faire passer de l'empathie, de la sympathie, de l'amitié ou au contraire de la frayeur.
Alors à propos de ce regard justement, de ce regard fascinant des céphalopodes, autour de la question jusqu'où nous entraînera l'intelligence et le regard des poulpes, je propose un nouvel éclairage, réclamé cette fois-ci par Guillaume Lecointre, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui s'adresse à vous deux.
Racontez-nous comment fonctionne leur œil. Ce que j'aime bien chez les céphalopodes, c'est qu'ils ont un œil qui a quasiment la même composition, dont le fonctionnement repose sur les mêmes principes physiques que le nôtre, mais qui relève de deux acquisitions évolutives distinctes. Un œil côté mollusque, un œil côté vertébré qui se ressemble beaucoup. Parlez-nous de la convergence évolutive des yeux des calamars d'un côté et des vertébrés de l'autre, enfin des céphalopodes d'un côté et des vertébrés de l'autre.
Ludovic Diquel, dessinez-moi un œil de céphalopode, s'il vous plaît.
Alors, l'œil du céphalopode, la première chose qui fascine dans l'animal. Hein, c'est un œil qui ressemble beaucoup au nôtre. Donc, on parle souvent du regard du céphalopode. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte que l'œil est structuré exactement de la même façon. Donc, c'est un œil d'invertébré, donc de mollusque, qui va comporter une paupière, comme la nôtre, une cornée, un iris, un cristallin et une rétine. Donc la structure de l'œil ressemble énormément à la nôtre, mais nous et les pieuvres avons évolué dans deux embranchements différents. On n'a pas discuté depuis
avec
très
les
très
pieuvres.
Longtemps. Avec les pieuvres depuis 500 millions d'années à peu près. Donc il est fort peu probable que cette ressemblance provienne d'un ancêtre commun. C'est ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire que les yeux des pieuvres et les nôtres vont se ressembler tout simplement parce qu'ils constituent une bonne réponse à l'environnement pour les deux espèces, pour l'humain et pour la pieuvre.
On a longtemps cru que ces experts du camouflage voyaient en noir et blanc, mais c'est plus compliqué que ça. On a découvert autre chose aujourd'hui, Ludovic Diquel.
Oui, c'est plus compliqué parce que d'abord les changements de couleur, ce sont des animaux qui arrivent à imiter la couleur du fond, et le fond n'est pas toujours en noir et blanc. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur leur faculté à percevoir les couleurs. Et on s'est rendu compte de deux choses. Alors pour l'instant, ce sont des hypothèses pour l'une d'entre elles, mais La première chose, c'est que les céphalopodes vont percevoir les plans de polarisation de la lumière. Alors, c'est très difficile à vous expliquer ce que c'est, parce qu'on ne la voit pas, la polarisation de la lumière.
Ils voient l'invisible.
Voilà, c'est invisible à l'œil humain. Mais c'est en fait, ce qu'ils perçoivent est complètement différent de ce qu'on perçoit nous. Ils perçoivent d'autres caractéristiques de la lumière. Et puis, ils ont développé aussi des capacités à percevoir différentes couleurs. Alors, je ne sais pas du tout comment ils le sentent. Comment ils le ressentent, mais ils le perçoivent différemment. Donc, pour faire simple, ce sont des animaux qui ont choisi de voir flou, mais de percevoir différentes couleurs avec un seul pigment. Nous, on utilise plusieurs pigments dans la rétine pour voir différentes couleurs. Eux n'en ont qu'un seul.
Le mystère du regard du poulpe, Jean-Claude Amezen, c'est ça aussi, est complètement fascinant, parce que moi, je les ai jamais regardés de près, mais enfin, on a l'impression qu'ils nous regardent aussi.
Oui, vous pouvez les regarder, il y a beaucoup de vidéos très frappantes. Oui, un mot sur l'évolution convergente, parce que ça, c'est toujours quelque chose d'étonnant. C'est au cœur
de nos yeux, que l'œil humain, enfin l'œil des mammifères,
qu'ils aient évolué en parallèle pour être relativement semblables. Il y a des différences qu'on voit bien. Par exemple, notre œil, ce qui est... et nous ne sommes pas les seuls, ce qui est assez bizarre, le nerf optique fait un trou dans la rétine pour revenir vers le cerveau. Chez les céphalopodes, il ne le fait pas. Donc ça s'est construit différemment, ça s'est construit en parallèle.
Et c'est toujours... Nous reconstruisons au fond avec notre cerveau ce qu'on voit, alors que les céphalopodes, on ne sait pas s'ils reconstruisent dans leur cerveau ce qu'ils voient.
Si, je pense que tout cerveau reconstruit ce qu'il voit. La question, c'est exactement qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on reconstruit. Ce que disait Ludwig Dickel sur la lumière polarisée, par exemple, les abeilles, les fourmis, beaucoup d'animaux voient la lumière polarisée et donc sont capables de voir où est le soleil quand les nuages les cachent. Donc il y a toute une série de choses que nous ne voyons pas.
Et que les autres animaux voient.
Que certains voient, d'autres pas. Les abeilles voient les rayons ultraviolets, nous ne les voyons pas. Elles voient les couleurs ultraviolettes des fleurs, nous ne les voyons pas. Donc il y a cet aspect. L'évolution convergente qui est toujours très surprenante. Comment deux yeux qui se ressemblent ont pu se bâtir de manière indépendante? Il y a la même chose avec les ailes. Il y a eu des dinosaures qui avaient des ailes, les oiseaux ont des ailes, des mammifères comme les chauves-souris ont des ailes. Ce sont des ailes qui sont construites de manière relativement différente, mais qui ont toutes pour effet de permettre à l'animal de se déplacer dans les airs. Donc c'est quelque chose de... Autant la divergence, le fait que les espèces soient très dissemblables, le fait qu'à partir d'ancêtres communs, il y a des arbres, des fleurs, des oiseaux et des poulpes et des êtres humains, c'est extraordinairement frappant. Mais le fait qu'il y ait des évolutions convergentes, parallèles, c'est quelque chose qui est aussi frappant. Mmh. Alors que ça veut dire que dans certaines circonstances et dans certains environnements, il y a peut-être pas 36 façons faciles de construire quelque chose qui a le même effet.
Et pour voir, il n'y a rien de mieux qu'un œil chez un céphalopode.
Alors pour voir, il n'y a rien de mieux qu'un photorécepteur qui répond à la lumière. Or, les photorécepteurs précèdent de très longtemps l'invention des yeux. C'est-à-dire que vous avez des organismes unicellulaires qui ont des photorécepteurs qui leur permettent de s'éloigner ou au contraire de se rapprocher de la lumière. Donc un œil, c'est pas quelque chose qui répond à la lumière, c'est quelque chose qui permet à un cerveau de reconstruire l'environnement en termes d'ondes lumineuses.
Donc on en revient au cerveau.
Donc en fait, un œil, c'est quelque chose, d'une certaine façon, ou en tout cas à mon sens, qui est en correspondance avec un cerveau et qui utilise des photorécepteurs, la réponse à la lumière, des pigments qui se modifient, qui modifient leur forme en réponse à la lumière, qui précèdent de très longtemps l'apparition des yeux et l'apparition des cerveaux. Alors, Godfrey Smith a une autre hypothèse qui ne vient pas de lui.
Dans cet ouvrage, voilà, Le Prince des Profondeurs.
Voilà, qui vient pas de lui, mais qui a été proposé par des chercheurs il y a une dizaine d'années, qui serait ce qu'évoquait Ludovic Dickel, qui est une découverte une publication en tout cas, d'un père astronome et de son fils biologiste qui ont travaillé ensemble pour essayer de résoudre le problème de la vision des couleurs éventuelles de ces peintres achromatopsiques. Ça serait dans l'œil qu'à partir d'un seul photorécepteur, il réussirait à voir différentes couleurs. Mais il y a d'autres hypothèses qui seraient, puisque ces animaux ont aussi des photorécepteurs dans la peau, et ont des petits sacs qui leur permettent de faire émerger la couleur, ça serait qu'il y ait un système de filtre un peu comme on peut utiliser des filtres dans un appareil photo, des filtres de couleurs qui permettraient peut-être de distinguer les couleurs au niveau de la peau. Donc il y a trois, chez les chercheurs, il y a trois écoles. Il y a ceux qui pensent qu'ils ne voient pas les couleurs, mais qu'en raison de la polarisation de la lumière, de la texture, des contours, de la luminosité, au fond, ils miment ce qu'ils ne voient pas en termes de couleurs, mais ce qu'ils voient en termes de réponse à la lumière. Il y a ceux qui pensent qu'ils voient avec les yeux. Il n'y a pas de preuve pour l'instant, c'est des modèles. Le père et le fils Stubbs ont fait un modèle informatique. Et il y a ceux qui pensent qu'ils voient à partir de la peau. Vous voyez, des peintres extraordinaires.
Ils voient à partir de la peau, parce que leur cerveau répond.
Voilà.
Leur cerveau est localisé jusque dans leurs tentacules, dans leur peau, on peut le dire comme ça. Hein.
Oui, et donc c'est un très beau mystère. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour imiter les couleurs de l'environnement, soit sans les voir, soit en les voyant de manière un peu particulière à partir des yeux, soit en les voyant à partir de la peau.
Dans le mystère des poulpes et autres céphalopodes avec les Beatles, forcément Octopus Garden sur RFI.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. This garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be.
Nous aussi, on aimerait bien être sous la mer, dans l'Octopus Garden des Beatles sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'intelligence des pieuvres, des poules, des calamars et autres sèches, en compagnie du chercheur et conteur Jean-Claude Amezen et de l'éthologue Ludovic Dickel, spécialiste des comportements et de la mémoire des céphalopodes, dont on ne cesse de découvrir les incroyables capacités cognitives. À ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par une autre éthologue, Emmanuelle Puy-Débat, qui elle aussi vient d'écrire un ouvrage sur l'intelligence des mammifères. Elle est interrogée par Alice Milo. Ludovic Dickel, bonjour. Alors moi j'ai une question pour vous. On parle énormément, nous, chez les mammifères, primates en particulier, de coordination bimanuelle. On trouve que c'est extrêmement compliqué de faire coordonner la main droite avec la main gauche et inversement. Et du coup je me dis que pour un poulpe, comment ça fonctionne la coordination entre toutes ces tentacules pour manipuler, parce que j'ai bien constaté à quel point il manipulait avec une très 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 bonne dextérité. Donc voilà, j'aurais vraiment une question sur la coordination des tentacules chez les poulpes. Votre réponse, Ludovic Dickel, comment ils font les poulpes?
Ah, c'est une vaste question, c'est très compliqué.
Déjà avec deux bras, enfin deux mains, on a un peu du mal parfois à coordonner, alors avec huit.
Oui, C'est vrai que c'est la coordination motrice des bras et des ventouses est quelque chose d'extraordinairement complexe chez la pieuvre. Quand on fait ami-ami avec un poulpe et puis qu'on lui serre la main, enfin je sais pas.
Ce que vous avez fait, hein, oui.
On s'y amuse un peu. On sent chaque ventouse qui va explorer chaque anfractuosité de la peau. C'est tout à fait spectaculaire. On a l'impression que chaque ventouse est autonome. Donc, on imagine la quantité d'informations qui doit parvenir au cerveau. C'est très, très compliqué à intégrer.
Et on peut dire que leurs neurones sont autant dans leur cerveau, enfin, autour de leur œil, que dans leurs tentacules. Enfin, c'est un peu ça.
Ce qu'on pense, c'est que c'est un système qui nécessite un nombre de neurones absolument considérable, évidemment. Et puis, en plus, c'est un cerveau qui est un petit peu, c'est un système nerveux qui est un petit peu délocalisé. En ce sens que le cerveau central qui se trouve entre les deux yeux va s'occuper des décisions un petit peu importantes du corps, hein, je vais là, et puis ou la mémoire, etc. Et puis il y a un certain nombre de petits cerveaux, hein, des ganglions, qu'on va retrouver au niveau des bras, et puis au niveau de chaque ventouse. Et puis en fait, on pense que chaque ganglion a une position hiérarchique bien définie. Et en fait, il y a un filtrage des informations qui se fait de l'extrémité du bras jusqu'au cerveau, qui permet en fait au cerveau de ne pas avoir trop d'informations à gérer, que ce soit d'un point de vue de ce que l'animal ressent ou d'un point de vue moteur. Donc les bras sont un petit peu autonomes.
Donc l'animal ressent, vous dites, c'est vraiment ressentir ce terme-là pour les céphalopodes, pour les pieuvres, il est évident, ils ressentent avec toutes les tentacules de leur peau, ils ont quoi comme sens? Donc la vue, on l'a dit, le toucher est fondamental, enfin bien plus que nous, ils entendent aussi les poulpes?
Les poulpes entendent, alors sur les fréquences qui sont très basses, donc on le voit très très bien quand on a un poulpe en élevage, hein, ils sont, quand quelqu'un marche à côté d'un aquarium, on les voit changer de couleur, donc ils perçoivent très très bien les
basses
fréquences.
Ils changent de couleur parce qu'ils se méfient ou parce que c'est ça, hein, d'accord.
Bah,
au son, ils changent de couleur. Oui.
Les changements de couleur pour nous sont très pratiques, hein. La peau en fait de ces animaux, c'est un petit peu comme notre imagerie à nous, notre imagerie cérébrale, hein. On fait ça gratuitement, il suffit de, si on veut savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un poulpe, il suffit de le regarder et puis on a une image de, pas de ce qu'il pense, mais on sait s'il pense des choses ou pas. Donc ils sont sensibles au son, ils sont sensibles à la lumière, ils ont un sens du toucher qui est extrêmement aigu, hein. Dans leurs bras, ils ont à peu près un sens du toucher dans chaque ventouse qui correspond à l'extrémité de nos doigts à nous, hein. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et ils goûtent aussi avec leur ventouse.
Ils sont en
relation, en symbiose sensorielle avec leur environnement, beaucoup plus que nous.
Donc c'est une sacrée expérience que de serrer la main, enfin la ventouse, pardon, excusez-moi, d'un poulpe, tentacule.
C'est une expérience pour nous, mais ça doit être aussi une sacrée expérience pour le poulpe.
Jean-Paul Lamézel.
Non, ce que je voulais dire, ça doit être une extraordinaire expérience pour le poulpe.
C'est ça, vous vous mettez déjà dans son cerveau, hein, j'ai bien compris. Alors, on se souvient, oui, Jean-Claude Amézène.
Oui, ce que je veux dire, c'est vous savez, la traduction du sous-titre, c'est l'extraordinaire intelligence des poulpes. Le titre anglais du livre de Peter Godfrey Smith, c'est Other Minds, d'autres esprits, d'autres univers mentaux. Et le sous-titre, c'est les poulpes, la mer ou l'océan. Et les origines profondes ou lointaines de la conscience. Donc je crois que ce qui est encore d'encore plus fascinant pour ces animaux, comme pour tous les animaux, mais je dirais que plus ils sont distants de nous, plus ils sont différents de nous, et plus une question fascinante, c'est comment ressentent-ils le monde? Combien de façons différentes y a-t-il de ressentir le monde et les autres? Qu'est-ce qu'ils vivent? Plus que leur intelligence qui est remarquable, mais qui au fond une capacité à résoudre des problèmes, plus que leur caractère facétieux qu'on voit parce qu'ils jouent, c'est comment vivent-ils le monde?
Ça, c'est quand même un grand mystère, ça va rester un grand mystère, mais on va continuer d'interroger ce mystère autour de la question jusqu'où nous entraînera donc la sensibilité, voire la conscience, la curiosité, l'intelligence des poulpes. Nouvelle question pour vous deux, soulevée par Karim Nakache, auteur avec son mari, le neurologue Lionel Nakache, de Parlez-vous cerveau. Jean-Claude Amézène, bonjour. La question du poulpe, moi, m'intéresse parce qu'elle me rappelle l'époque où j'allais avec mes enfants au Palais de la Découverte et où j'avais assisté, par hasard, à une expérience d'ouverture de bocal
par un poulpe qui était vraiment spectaculaire et qui révolutionnait évidemment nos vieilles conceptions de notre exclusivité ou en tout cas notre faculté à utiliser, nous les humains, les outils et à planifier leur utilisation. Et donc la question de cette intelligence des poulpes me renvoie à celle de la définition du propre de l'homme. Est-ce qu'on peut continuer à rattacher plus ou moins directement le propre de l'homme à sa faculté à maîtriser l'outil?
Votre réponse, Jean-Claude Amézène.
Alors, c'est une ancienne question. Darwin, dans son deuxième grand livre, qui est La généalogie de l'homme, qu'il écrit après l'origine des espèces, s'intéresse justement non pas à l'évolution des espèces, mais à l'évolution de l'humanité à partir d'ancêtres animaux et primates non humains. Et donc la grande question, c'est l'origine des capacités mentales, de la culture, du fait d'utiliser les outils, du sentiment esthétique, de la conscience de soi, de la coopération, de la sympathie. Et il a des chapitres qu'avec un peu d'humour, je crois, il commence à explorer en disant « là, le langage, la culture, les outils, là est à l'évidence une distinction essentielle entre l'homme et les animaux. » Et puis dans le chapitre, il explique pourquoi, au fond, on voit des prémices,
c'est
des variations.
Si ça bouge. Bon,
voilà, ça, y a des choses qui ressemblent. Et il termine chacun des chapitres en disant, et je pense que c'est l'état de l'éthologie actuelle depuis une vingtaine d'années, il s'agit d'une différence de degré et pas de nature. Et donc chaque fois qu'on s'adresse à une capacité qu'on croit être le propre de l'homme, on s'aperçoit que nous ne sommes pas les seuls. Elle existe sous des formes différentes, sous forme de prémices ou de variations, mais elle existe chez certains animaux. Et en m'interrogeant sur cette question, je me suis dit qu'au fond, l'une des seules caractéristiques qu'il semble que d'autres animaux ne partagent pas, mais encore faudrait-il voir, c'est la capacité à apprivoiser, à domestiquer le feu. Mais si c'est un propre de l'homme, cette domestication, les traces les plus anciennes, c'est 1 million d'années, et c'est donc 700 000 ans avant que ceux qu'on appelle les hommes et les femmes modernes, Homo sapiens, émergent. C'est nos ancêtres très lointains. Et donc je crois, pour tout ce qu'il y a de plus sophistiqué, dont on pensait que c'était unique à l'espèce humaine, eh bien c'est pas unique. Nous le vivons et nous le maîtrisons autrement, peut-être de manière plus sophistiquée, en tout cas autrement, mais nous ne sommes pas les seuls à le posséder. Lorsque Karine Nakache parle d'ailleurs de l'ouverture du bocal, je ne sais pas si c'est le cas, ce que je trouve le plus spectaculaire, c'est quand un poulpe ouvre un bocal, un bouchon de bocal, de l'intérieur. Il est à l'intérieur du bocal.
Et il arrive à...
Et il le dévisse, et il en sort.
Trop fort les poulpes, Ludovic Dickel. Vous aussi, vous partagez cette idée de différence de degré, parce que je rappelle que vous étudiez en ce moment la mémoire des sèches. Hein. Donc les sèches partagent avec nous la mémoire. Et ils sont même peut-être plus fortes que nous pour ce qui est de la mémoire, enfin... Comment vous
voyez
ça ?
On étudie la mémoire, la conscience, les émotions.
La conscience et les émotions chez les sèches, hein, je vous ai bien entendu.
Chez les sèches, oui. Beaucoup de choses dont on pense qu'elles sont le propre de l'homme. Alors par rapport à cette ouverture de bocal, je vais être très très pragmatique, mais j'ai travaillé un petit peu là, sur ces comportements à Naples avec le professeur Graziano Fiorito. Et c'est souvent présenté comme un comportement qui est ingénieux de l'animal, mais quand on le voit, c'est un comportement paradoxalement qui est très très programmé, ce comportement d'ouverture du bocal. Lorsque une pieuvre a ceci de particulier que lorsque vous la mettez en présence d'un objet qui contient deux objets qui bougent l'un par rapport à l'autre, deux pièces de Lego par exemple, ou deux tubes qui sont l'un dans l'autre, l'animal va les séparer. Et c'est pour ça que ce sont des animaux qui sont très difficiles à garder en captivité sans
ils sont capables de se libérer toutes les chaînes, enfin, en gros.
Donc,
hein.
Quand vous les mettez face à un bocal, elles l'ouvrent. Mais quand vous le mettez face à deux pièces de Lego, les pieuvres vont les séparer. Et si vous mettez un bocal vide, elles vont l'ouvrir quand même, qu'il y ait un crabe ou pas dedans. Donc ça fait partie des comportements, au contraire, qui sont très programmés.
Ils sont câblés pour ça, on peut le dire comme ça.
Elles sont câblées depuis des générations et des générations, tout simplement parce qu'elles se nourrissent de bivalves. Donc quand vous nourrissez d'une moule...
Mais c'est bien sûr...
chaque demi-coquille, dès que ça bouge, vous tirez. Et en fait, elles sont c'est relativement stéréotypé. Alors, il y a un petit peu d'apprentissage autour, mais...
C'est-à-dire, l'apprentissage, on se demande, alors on ne l'a pas dit, mais les céphalopodes, les poulpes, en tout cas, vivent 2 ans, c'est ça. Enfin,
ça dépend.
En tout cas, quand ils se reproduisent, il n'y a pas plusieurs générations de poulpes. Donc, l'apprentissage, comment ça peut se faire dans des... quand on ne vit pas avec son papa et sa maman, pour le dire très bêtement.
Elles apprennent seules, elles sont complètement autonomes à la naissance. Alors la maman pieuvre va s'occuper de sa ponte pendant une durée plus ou moins longue, hein, et puis elle va en mourir d'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans cette durée de vie, c'est que la mort pour la pieuvre est programmée. Elle est associée à la reproduction, en fait. Hein. Ça a été un exemple, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont inspirés de ça pour dire que c'était pas bien de se reproduire, parce que les céphalopodes en meurent, mais c'est un petit peu un signe de luxure.
Ils nous servent à tout, les céphalopodes. On peut leur faire dire beaucoup de choses.
Hein. Ouais. Alors, les animaux ont une mort programmée, et cette mort programmée est produite... Enfin, c'est dû à une petite glande qui s'appelle la glande optique, et c'est très amusant, parce que quand vous enlevez cette glande, les animaux vivent plus longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui sert au niveau de l'espèce, mais pas du tout au niveau de l'individu.
Ils sont programmés pour mourir quand ils...
Pour laisser la place aux petits.
Autour de la question, jusqu'où nous entraînera l'intelligence, les émotions, la mémoire, la sensibilité, on va y revenir, des poulpes. On continue de se raccrocher à leurs tentacules en écoutant Noir Désir sur RFI, la chanson de la mort. La chanson de la main, signée Noir Désir sur RFI. Autour de la question, jusqu'où nous entraînera l'intelligence des poulpes, sèches, calmars et autres céphalopodes, qui inspirait déjà Théodore Monod, interrogé par Jacques Chancel. C'était en juillet 77 qui lui demandait quelle serait l'espèce animale la plus apte à remplacer l'homme sur Terre. Voilà ce que le naturaliste Théodore Monod répondait à Jacques Chancel.
Mon candidat, puisque vous me posez cette question insidieuse, mon candidat, ce sont les céphalopodes.
C'est-à-dire ?
Les céphalopodes, c'est les poulpes, les pieuvres, les sèches et les calmars.
Ben, c'est pas réjouissant, hein ?
Je ne sais pas, mais c'est un groupe qui est d'abord extrêmement perfectionné au point de vue anatomique. Ils ont des yeux, j'allais dire, aussi bons que les miens, aussi bons que ceux des primates normaux. Ils ont presque un crâne, cartilagineux, mais enfin c'est quand même un crâne. Ils ont un psychisme qui est très développé, qui a été étudié. Les pieuvres ont 2 mémoires. Je ne sais pas si c'est un avantage sur la mienne qui est unique. C'est peut-être 2 mémoires spécialisées dans la nature des stimuli qui les concernent. Et puis ils peuvent atteindre des tailles énormes. Il y a des calmars de 20 mètres de long, dont nous n'avons que des débris. On ne connaît que des débris de ces animaux. Et quelquefois, les empreintes de leurs ventouses sur la peau des cachalots. Parce qu'il se trouve que les cachalots se nourrissent volontiers de céphalopodes. Et alors, il y a des bagarres sur la pente du plateau continental, et on a les empreintes de ces ventouses sur la peau des cachalots. Alors, ces céphalopodes sont aquatiques. Ils respirent l'oxygène sous sa forme dissoute, par l'intermédiaire de branchies, naturellement. Donc, pour qu'ils puissent débarquer à l'air libre et envahir les continents et nous remplacer, il faudrait d'abord qu'ils redécouvrent le poumon, ce qui a déjà été fait plusieurs fois dans l'histoire de la vie, et il faudrait aussi qu'ils découvrent la possibilité de protéger leurs œufs contre la dessiccation, ce qui est le cas des reptiles.
Jean-Claude Amezen, je vous ai vu sourire. Cet éclairage de Théodore Monod.
Oui, non,
77.
Je souriais parce que c'est cette idée que pour nous remplacer, ou plutôt pour nous succéder, il faudrait adopter notre mode de vie. Mais je dirais, les céphalopodes vivent dans les océans, qui représentent quand même la plus grande part de la vie sur notre planète, et dont nous sommes exclus et que nous détruisons. Et qui sont nos origines, qui sont les origines de tous les êtres vivants sur la planète. Et donc, tant qu'à nous succéder, pourquoi ne pas nous succéder dans les océans ? Donc, je trouvais étrange. Je trouvais étrange cette idée qu'il fallait qu'ils sortent de l'océan et qu'ils viennent sur Terre pour nous succéder.
Ludovic Dickel, ça vous inspire quoi, ces propos, Théodore Monod ?
La réflexion de Jean-Claude Amezen est tout à fait juste. Et on peut ajouter que, très bizarrement, je ne sais pas, c'est peut-être mon métier qui m'indique ça, mais ça ne doit pas être si inconfortable que ça d'être un poulpe. Peut-être vaut-il mieux qu'il reste poulpe, hein, parce qu'imaginez, ce sont quand même des animaux qui existent dans leur forme actuelle depuis au moins 160 millions d'années, qui voient apparaître des espèces et disparaître d'autres espèces, et qui restent à peu près sous la même forme. C'est quand même une situation assez confortable par rapport à la nôtre.
Oui, finalement, ils n'ont peut-être pas du tout envie de nous succéder, les poulpes. Ils sont bien là où ils sont, et pourtant, ils ont, on le disait à l'instant, une vie. Alors là, je reprends les mots du livre que vous avez préfacé, Jean-Claude Amezen, les mots du chercheur Peter Godfrey-Smith. Ils ont une vie compressée. Donc une vie très courte.
Une vie très courte par rapport à la nôtre, une vie très longue par rapport à d'autres animaux. Mmh. Et donc c'est toujours en nous comparant qu'on trouve qu'elle est courte. Il y a des êtres dont donc. Ce qui est très.
Est-ce qu'on sait s'ils ont une notion du temps, Ludovic, vous qui travaillez avec les poulpes et les sèches, le temps, ça dirait quelque chose aux poulpes ?
Il y a un travail dans le laboratoire qui a semblé montrer que effectivement la sèche a une certaine capacité. Ce sont pas des évidences qu'on a, simplement des traces qu'on a par rapport à leur comportement, à faire des formes de voyages dans le temps, au niveau des voyages mentaux dans le temps.
Dans le temps. Et vous parlez des sèches. Non, mais je veux continuer.
C'est ça. Elles ont une forme de mémoire qu'on appelle épisodique, c'est-à-dire qu'elles sont capables de prévoir un petit peu, d'anticiper un petit peu les événements avant qu'ils arrivent. Donc c'est une forme de perception du temps qu'elles auraient, oui.
Si ma mémoire est bonne, c'est un travail qui avait été fait dans votre laboratoire en collaboration avec Nicolas Clayton, qui est la grande spécialiste de la découverte chez les corvidés, et en particulier chez les geais, des oiseaux très intelligents qui là encore ont développé leur capacité mentale et leur cerveau de manière indépendante, c'est des oiseaux, hein, de celles des mammifères. Et elle avait montré au début des années 2000 que, contrairement à ce qu'on croyait, c'est toujours cette question du propre de l'homme ou du propre des mammifères, qu'ils étaient capables de se repérer dans le temps, c'est-à-dire dans le passé et dans l'avenir. Et en collaborant justement avec le laboratoire
de
Ludovic, ils ont montré qu'il y a quelque chose de semblable chez les sèches, ce que Ludovic appelait la mémoire autobiographique, qui est en gros le quoi, se souvenir de quoi, de où et de quand. Et donc ça demande de voyager dans le temps.
Mais comment, qu'est-ce qui peut se passer dans le... dans le cerveau d'une sèche. Moi, ça me semble complètement fou et extraordinaire de se demander qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une sèche, Ludovic Dickel.
C'est un métier hein, que d'essayer de se poser la question.
Ça, je me doute bien.
C'est un métier compliqué. Ce qui est fascinant chez cet animal-là, c'est d'une part d'essayer de trouver chez la sèche ou chez la pieuvre des choses qui ressemblent à ce que nous, on peut exprimer ou ressentir. Donc ça, c'est une partie de notre travail. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est d'essayer de voir si elles n'ont pas une autre forme de perception de l'environnement, une autre forme de conscience, peut-être des formes d'émotion qui seraient analogues, comme quand on parlait des yeux tout à l'heure, hein. Il y a des yeux qui ressemblent beaucoup aux nôtres, mais qui ont une origine évolutive complètement différente. Peut-être qu'avec leur cerveau qui est complètement différent du nôtre, peut-être qu'avec leur perception du monde qui est complètement différent du nôtre, elles sont capables d'exprimer une autre forme de subjectivité et de conscience que nous.
Une conscience, mais une autre conscience de soi et du monde et d'autres émotions. Le seul mot, c'est autre, quoi, autrement.
Voilà.
C'est très difficile d'ailleurs, et c'est ce que souligne Ludovic Dickel, c'est-à-dire que trouver des ressemblances est difficile pour des raisons psychologiques. Donc ça a été très dur de les trouver chez d'autres animaux, parce que c'est comme si on perdait quelque chose à trouver des reflets.
Qu'est-ce qui nous reste à nous,
ailleurs,
pour
voilà.
Aux humains ?
Mais on peut essayer, ça se fait de plus en plus, justement, de trouver des ressemblances. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer des expériences qui permettent de découvrir ce qui existe dans l'univers mental d'un animal qui n'existe pas chez nous. Parce qu'il faut pouvoir se le représenter, il faut pouvoir l'interpréter, il faut pouvoir le déchiffrer. Et donc il est possible que dans le monde animal, toute une série de représentations du monde, d'émotions, nous échappent. Tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de les imaginer, donc d'essayer de les interpréter.
Nous humains, je propose de nous mettre un petit peu la tête à l'envers pour essayer justement en écoutant Julien Ribaud, Chambre renversée sur RFI. Jeune artiste, dessinateur, auteur, compositeur dans sa chambre renversée pour essayer justement de renverser un peu notre esprit et pour arriver à comprendre comment fonctionnent les poulpes, les calmars, les sèches. Ludovic Dickel, vous avez parlé des émotions, d'autres émotions que ressentiraient les sèches. Vous le voyez quoi dans l'œil des sèches avec qui vous travaillez ?
Ça, c'est un vrai problème. Darwin avait posé le problème et Darwin considérait que les émotions, l'expression des émotions, le considérait différemment des émotions. En fait, il considérait les émotions comme une modification de l'état physiologique de l'individu. Mmh. Et il s'était demandé pourquoi on exprime ça. Pourquoi, à la surface du corps, on va exprimer des émotions positives ou négatives. Donc, on essaie de poser les questions aux céphalopodes. Vous imaginez que c'est un petit peu plus compliqué, mais ce sont des animaux très paradoxalement qui sont très très expressifs de par leur changement de couleur.
C'est-à-dire quand elles ont, au fond, vous lisez leurs émotions sur leur corps tout de suite, c'est ça, par le changement de couleur.
Donc,
la
on va
peur,
essayer de voir
le...
si les, Voilà, donc on va essayer de voir si leur changement de couleur est un reflet de ce qu'elles ressentent, et si elles ressentent des choses positives ou négatives, donc on va essayer de les mettre dans différentes conditions, et puis on va essayer de mettre à disposition ces informations pour les gens qui les gardent en aquarium, pour qu'ils essaient de savoir ce qui les rend heureuses ou pas heureuses.
Il faut noter aussi, et c'est vous qui me l'avez rappelé, Ludovic Dickel, que les céphalopodes, dans le cadre du bien-être animal, sont maintenant considérés comme des animaux sur lesquels on ne peut pas expérimenter n'importe quoi. On sait qu'ils ressentent quelque chose.
Depuis 2013, hein. La nouvelle directive européenne a inclus donc les céphalopodes dans la réglementation sur le bien-être des animaux en expérimentation. Ce sont les premiers invertébrés à être intégrés dans cette réglementation, dans 700 espèces d'un seul coup, ça fait beaucoup. Et très paradoxalement, mais on étudie ça, on s'intéresse beaucoup à la question, qu'est-ce qui, au niveau de la réglementation, qu'est-ce qui a poussé le législateur à s'intéresser aux céphalopodes, alors qu'on sait aussi peu de choses sur eux, on ne sait pas.
Est-ce que ce n'est pas le fameux poulpe qui pronostiquait les résultats lors du mondial qui se déroulait en Afrique du Sud dans les années 2000, Paul le poulpe?
Oui, je ne crois pas, je crois dans le peu de discussions auxquelles j'avais participé en matière de comportement éthique vis-à-vis des animaux.
Hein, et des réglementations. Vous étiez président du comité consultatif national d'éthique.
Oui, oui, mais ça on s'en occupait pas, mais c'était à d'autres, dans d'autres circonstances. Il me semble que c'est la réalisation progressive que la taille importante et la complexité du cerveau des céphalopodes suggéraient que ce qu'ils ressentaient en termes de souffrance, de douleur, de bien-être, les mettait dans une situation un peu à part des autres invertébrés. Donc je crois que c'était à la fois l'extraordinaire sensibilité dont parlait Ludovic Dickel au toucher à la réponse à l'environnement et en même temps cette prise de conscience de l'importance du cerveau. Alors, Godfrey Smith, qui a écrit...
C'est ce chercheur éplongeur australien.
Qui est un philosophe, moi je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est un philosophe spécialiste de la théorie darwinienne, qui est un plongeur, qui publie des articles scientifiques dans des revues scientifiques, et qui avait publié un article il y a quelques années, qui montrait qu'en fonction des émotions, quand des poulpes se rencontrent sur un même lieu, s'ils veulent combattre, ils vont prendre des couleurs sombres, et si l'un des deux commence à prendre une couleur pâle, c'est qu'il est en train de dire qu'il va pas se battre et qu'il cède le terrain. Donc
il communique aussi, il y a
cette émotion. Moi, ce que je trouve fascinant, parce que les couleurs c'est le camouflage, là c'est l'émotion bien sûr, parce qu'il faut se camoufler, mais c'est prendre les couleurs de l'environnement. Il y a les émotions ressenties, la colère, la peur, etc. Et puis il y a la séduction et les sèches. Les messieurs sèches, les mâles, font apparaître des couleurs extraordinaires.
Pour séduire leurs belles
sèches. Pour séduire. Godfrey Smith parle de tableaux, c'est comme des Matisse, des Kandinsky. Et une de mes questions, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'effet, comme on l'a fait chez les oiseaux depuis longtemps, l'effet de ces couleurs et de ces types de couleurs chez les femelles sèches, ou est-ce qu'on ne sait absolument pas comment elles répondent à ce déploiement
Ludovic
de couleurs
Dickel,
magnifiques.
On arrive à la fin de cette émission, vous avez à peine 20 secondes pour répondre pas, c'est impossible.
Il y a des milliers de questions, il faudrait que M. Amiez vienne travailler avec nous.
Je suis bien d'accord, et puis je propose aussi que vous reveniez, cette fois-ci pas en duplex, mais en direct avec nous pour qu'on continue, parce qu'on n'a fait qu'aborder finalement cet immense territoire des céphalopodes. Merci beaucoup Ludovic Dickel d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Caen, et puis vous revenez quand vous voulez directement dans nos studios à Paris. Hein.
Merci à vous.
Merci Jean-Claude Amezen d'être venu en direct. Je renvoie nos auditeurs internautes sur les épaules de Darwin, bien sûr, votre émission et vos ouvrages. Et puis je les renvoie aujourd'hui particulièrement sur cet ouvrage de Peter Godfrey Smith que vous avez préfacé, Jean-Claude Amezen, Le prince des profondeurs, l'intelligence exceptionnelle des poulpes, publié en français chez Flammarion. Merci.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain avec Apolline Verlan-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses autour de l'innovation inversée quand l'innovation vient du Sud et peut même remonter au Nord. Il sera question au Nord, oui, de santé publique. À demain. Priorité.